La recherche autrement, une collection de reportages à la découverte des recherches participatives en Bretagne. Les radios associatives adhérentes à la CoreLab vous font découvrir 8 projets soutenus par la région Bretagne dans le cadre des appels à projets Recherche et Société, visant à renforcer le dialogue entre les acteurs de la recherche et la société civile et ayant pour objectif de répondre à des problématiques sociales, culturelles, économiques ou encore environnementales. Entrez dans les coulisses des recherches participatives en Bretagne et appréhendez l'innovation sociale sous toutes ses formes.
Il y a un stand Terre de Liens sur la ferme ici ce soir à Saint-Efflam à Langouëlan. Je vais vous demander de vous présenter.
Alors je suis Claudine de la région de La Roche-Bernard et je suis bénévole à Terre de Liens.
Et vous ?
Sylvie de Vannes, bénévole Terre de Liens.
Et vous ?
Jacques, bénévole à Terre de Liens depuis 18 ans.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole à Terre de Liens ?
Parce que c'était la poursuite de mon activité professionnelle. Je n'ai pas quitté l'agriculture depuis le jour de ma naissance.
C'est une association dans laquelle vous croyez beaucoup ?
Absolument.
Pourquoi ?
Parce qu'elle part d'une logique très simple, que l'alimentation doit être saine, sinon on va dans le mur. Et l'agriculture par la même occasion.
Qu'est-ce que vous faites ici ce soir ?
En fait, ici, on fête l'installation de Garance, qui est installée depuis février 2024 en élevage laitier. Et la terre, les bâtiments, c'est Terre de Liens qu'ils avons acheté pour elle. Donc c'est elle qui exploite, elle est locataire en fait de Terre de Liens.
Et vous avez un stand ?
Et on a un stand ici, Terre de Liens, pour informer les gens, pour qu'ils puissent connaître un peu nos objectifs et pour pouvoir récupérer des fonds aussi de certaine façon. Voilà.
Vous parlez de Garance, vous la connaissez toutes ?
Tous. On a fait connaissance aujourd'hui.
Moi j'ai fait connaissance avec elle aujourd'hui, mais il y a d'autres bénévoles qui la connaissent, oui. Voilà.
Ça veut dire que les paysans Terre de Liens... Ça fait un peu partie aussi de la famille Terre de Liens ou...
C'est très important. Les bénévoles accompagnent les paysans, non seulement avant l'achat de la terre, pendant l'achat de la terre et la ferme ouverte, et surtout après. Parce que c'est important de savoir si ça se passe bien, s'il n'y a pas de soucis X ou Y. Et ouais. Oui, on les accompagne, oui. C'est un de nos travaux.
Ça se passe, c'est quel type d'accompagnement ?
Alors avant, c'est le porteur de projet, on va suivre la ferme, on va participer au comité d'engagement, c'est-à-dire voir si la ferme est viable, enfin le projet est viable, etc. Pendant, aujourd'hui, le FESNOS a été organisé par des vrais professionnels, mais la dernière ferme dont je me suis occupée, qui se trouve dans le Morbihan, on a fait deux concerts, la préparation, l'invitation auprès des gens, etc., etc. Et en finale, après, idéalement une fois par an, on prend contact avec eux. Et s'ils ont besoin, évidemment, on est bénévole référent sur la ferme. Et du coup, on s'assure que tout va bien.
Vous l'avez compris, dans cet épisode de La Recherche Autrement, on parle des communs et de l'association Terre de Liens qui tente de redonner vie à cette notion de terres agricoles qui sortent de la propriété individuelle. On quitte Langouëlan et ce FESNOS sur la ferme de Garance pour aller à Cesson dans les locaux de Terre de Liens à la rencontre de Roulian Ackerman Aredes, qui est chargé de mission juridique.
L'association Terre de Liens Bretagne a un engagement donc, dans l'agriculture durable et notamment dans la vision de la terre comme bien commun. Et je pense que c'est un sujet qui rentre beaucoup en résonance dans les sujets dans l'environnement. Et donc voilà pourquoi je me suis engagé en tant que salarié chez Terre de Liens Bretagne. L'association Terre de Liens n'est pas née en Bretagne. Elle est née à Cré, il y a 20 ans, avec cette idée de terre comme bien commun. Parce que l'objet de l'association Terre de Liens, l'objectif, le but, c'est véritablement d'agir pour enrayer la disparition des terres agricoles et faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs. On peut parler non pas de l'association Terre de Liens, mais du mouvement Terre de Liens. Synthétiquement, donc le mouvement Terre de Liens est composé de trois entités importantes. Donc tout d'abord, la foncière Terre de Liens, c'est l'entité de Terre de Liens qui est en charge de l'achat des terres agricoles pour ensuite les mettre à bail et pour favoriser l'installation de nouveaux paysans. Dans ce même mouvement, il y a la Fédération Terre de Liens qui réunit toutes les associations territoriales de Terre de Liens qui agissent régionalement, donc à une échelle locale justement, pour instruire les dossiers pour favoriser l'installation des paysans, donc au niveau régional avec ces 19 associations territoriales. Et troisièmement, on a la Fondation Terre de Liens qui, elle, donc, a plus un objectif, une vocation de protection de l'environnement, mais aussi de favoriser le mécénat, de recevoir, par exemple, en donation en legs des fermes qui souhaiteraient être transmises par des paysans qui, par exemple, partent à la retraite et qui souhaitent donner leurs terres pour qu'elles soient ensuite relouées, mises à bail à de nouveaux paysans ou paysannes qui souhaitent s'installer. D'abord, il faut peut-être distinguer donc, du coup, les fermes qui sont achetées par la foncière Terre de Liens et les fermes qui sont achetées par les collectifs de citoyens qui sont accompagnés par Terre de Liens mais qui ne font pas partie du mouvement en tant que tel. Alors si on parle des fermes Terre de Liens, celles-ci sont acquises par le biais de la foncière dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est des capitaux de la foncière qui sont abondés par des épargnants, des épargnantes qui souhaitent placer leur épargne en achetant des parts de la foncière qui ensuite va racheter ces fermes Terre de Liens. Et dans le cadre du coup d'une acquisition citoyenne, donc qui n'est pas effectuée par Terre de Liens en tant que telle. Là, la levée de fonds est effectuée par les citoyens. Donc là, évidemment, c'est plus du bouche à oreille, dans un cercle plutôt restreint, qu'il faut chercher les fonds. Donc voilà. Donc le projet de recherche s'inscrit dans l'action du mouvement Terre de Liens, notamment dans l'action et la dynamique de l'association territoriale Terre de Liens Bretagne, parce que l'association, depuis sa création en 2006, a accompagné, soutenu, favorisé les initiatives citoyennes qui visent justement, dans cette idée, dans cette vision de terre comme bien commun, d'acquérir le foncier collectivement, des citoyens qui se mettent en commun pour acquérir le foncier collectivement et le gérer collectivement pour permettre l'installation de paysans. Et donc la région Bretagne est une région qui est particulièrement dynamique si on compare au niveau national, parce qu'en Bretagne on compte environ une quarantaine de ces initiatives citoyennes qui ont été accompagnées par Terre de Liens Bretagne. Et donc ces citoyens se mettent en commun, créent une structure juridique, généralement et historiquement ça a été des groupements fonciers agricoles, des GFA ou des SCI, des sociétés civiles immobilières, créent ces sociétés pour acheter des terres collectivement et pour permettre justement l'installation de paysans. Et donc, le projet de recherche vise justement à mettre en valeur toute cette dynamique, tout d'abord avec l'objectif de faire un état des lieux détaillé de ces initiatives et d'analyser d'un point de vue plus statistique le sociétariat, leur dynamique territoriale et les dynamiques de gouvernance. Le projet de recherche vise aussi d'analyser les limites auxquelles sont confrontées ces structures juridiques, notamment réglementaires et juridiques, dans leur quotidien, notamment par exemple de gestion administrative qui peuvent rendre très difficile dans le long terme le fonctionnement de ces structures. L'objectif du projet de recherche, c'est d'identifier un certain nombre de limites pour ensuite faire des propositions concrètes d'adaptation du cadre législatif et réglementaire pour faciliter la création de ces structures et les démultiplier sur le territoire. Terre de Liens, donc est le porteur du projet Terre de Liens Bretagne, a candidaté à ce projet en 2021 et a été lauréat en 2022. Et c'est un projet maintenant qui est censé se terminer en fin 2024. Donc le calendrier, on est sur 2 ans à peu près. Du coup, le partenariat avec Simon Cornet, donc le professeur à l'université de Rennes 1, permet justement de compléter le volet juridique pour justement avoir un volet plus statistique dans une optique participative, puisqu'il s'agit aussi donc essentiellement de faire un projet de recherche participative. Les structures citoyennes ont été mobilisées justement pour le recueil des données, pour comprendre le mouvement des associés dans le temps. Par exemple, quelle est la fréquence du mouvement d'associés de revente de cession de parts, comprendre les augmentations de capital, les diminutions de capital, Donc voilà, ça c'est toutes les données qu'on a recueillies auprès des structures citoyennes qu'il a fallu mobiliser donc, tout au long du projet de recherche, surtout au début. Et aussi, ça a été l'occasion d'organiser deux journées de recherche participative, une organisée en 2022 et l'autre en 2023. Donc justement, dans le but de créer des ateliers, des espaces d'échange entre les différentes personnes qui intègrent ces structures, que ce soit à la fois les paysans ou les paysannes, les associés ou même les gérants de ces structures, pour comprendre en réalité les dynamiques de gouvernance, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, ou au contraire, voilà, quelles sont les dynamiques vertueuses qui ont pu être enclenchées et qui servent à alimenter aussi le projet de recherche dans un but participatif, parce que ces structures sont en quelque sorte les actrices principales du projet. Je pense que ce qui va changer principalement, c'est que l'association Terre de Liens Bretagne a beaucoup accompagné ces initiatives quand elles ont été créées. Donc il y a, pour certaines d'entre elles, il y a un certain nombre d'années déjà. Et donc peut-être qu'à ce moment, à ce moment-là de la création, on n'avait pas assez de temps de recul pour savoir quelles difficultés allaient rencontrer ces structures. Et justement, les années de recul et le projet de recherche ont permis plus spécifiquement d'identifier ces problématiques-là, ces limites. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce recul et les résultats de ce projet de recherche, on est bien arrivé à identifier ces limites sur lesquelles on propose aussi des adaptations dans le cadre du projet de recherche. Mais je pense qu'on permet aussi d'explorer d'autres types de structures juridiques. Enfin, j'ai parlé des structures coopératives ou des fonds de dotation et qui, je pense, permettront de faire un meilleur accompagnement, un meilleur soutien de ces initiatives.
Alors, Garance, c'est vous l'exploitante ?
Oui, tout à fait. J'ai repris la ferme 1er février 2024.
Vous avez comment ça s'est passé, cette histoire de ferme ? Ça a commencé comment ? C'est vous qui avez repéré cette ferme ?
Oui, on a repéré cette ferme grâce à une voisine, notre ancien chez nous, qui était passée par là, qui a rencontré les exploitants. Et en fait, elle disait « Ah, mais faut que tu ailles voir cette ferme, elle est trop belle » et ils sont en train de la vendre. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Christian et Françoise. Et voilà, ensuite, on a monté le projet ensemble du rachat avec Terre de Liens, notamment.
C'est un parcours du combattant ou ça se fait assez fluide, c'est long, c'est court ?
C'est assez long, mais après, c'est super faisable parce que une fois que tu es en relation avec Terre de Liens, ils te suivent vachement bien. C'est facile de communiquer avec eux, les questions et les réponses, elles sont toujours présentes.
Et les cédants, ils étaient en confiance ?
Ils connaissaient pas l'assaut, ils connaissaient pas du tout le fonctionnement, mais ils étaient assez ouverts. En fait, je pense que d'abord, ce qui leur a vraiment importé, c'était qu'on s'entende vraiment bien. Donc le relationnel entre nous était très bon. Et après, le financement, il est arrivé après. Et là, ils étaient ouverts à la proposition, quoi. Ils se sont renseignés. Ils ont rencontré aussi un salarié Terre de Liens. Et ça les a rassurés. Voilà.
Et il a fallu que vous alliez chercher de l'argent ou comment ça s'est passé ? Vous fassiez un financement participatif ou c'est pas du tout comme ça que ça marche ?
Pas du tout. Moi, je me suis pas du tout. J'ai pas du tout pris de temps sur mon temps pour la partie argent. C'était vraiment monter le dossier, monter le projet avec Christian et Françoise, avec Terre de Liens aussi. C'était plus des trucs de paperasse. Monter un dossier, passer les commissions, les différentes commissions. Mais non, on ne s'occupe pas du tout de la partie argent.
C'est pas mal ce soir, c'est vous qui organisez la fête ?
C'est nous qui organisons la fête.
Après quelques mois d'installation ?
Et oui.
C'est pour quoi ?
C'est pour l'inauguration de la ferme. Puis on avait la petite visite de Terre de Liens pour présenter le projet, présenter la structure. Et puis faire réunir tout le monde faire la fête ensemble.
Merci Garance.
Après les locaux de l'association Terre de Liens et ce petit tour sur la ferme de Garance lors du fest-noz de cette ferme Terre de Liens, on part à Rennes, place Hoche, à la faculté d'économie, à la rencontre des chercheurs.
Donc moi, je m'appelle Victoria, je suis finissante, tout comme Jordan, du Master Économie Sociale et Solidaire à l'Université de Rennes 1. Et je suis québécoise aussi. Et puis, je travaille sur le projet, sur l'aspect de la gouvernance des groupements fonciers agricoles donc, et des SCI citoyennes.
Moi, je m'appelle Jordan Gouet. Je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Je travaille en collaboration avec Victoria. Je suis en master analyse de projet et développement durable. Donc je suis stagiaire. Victoria travaille plus sur l'aspect quali. Moi, je suis plutôt sur l'aspect quantitatif. Et du coup, moi, je récoltais les données au sein des GFA, tout ce qui est c'est mouvement de part et mouvement d'associés. Et tout ce qui était au réseau, le lien qui existait entre les différents associés et les paysans des différentes structures.
Donc moi, je suis Simon Cornet, je suis professeur à l'Université de Rennes, à la Faculté des sciences économiques. Je suis aussi membre du Centre de recherche en économie et management, donc qui est techniquement une UMR CNRS entre le CNRS et l'Université de Rennes. Mes domaines de recherche, en quelques mots peut-être, sont à l'intersection entre d'un côté l'économie sociale, l'économie coopérative, et puis de l'autre la finance et la gouvernance. Et à ce titre-là, je porte le projet commun avec l'association Terre de Liens Bretagne, qui a bénéficié d'un financement de la région Bretagne dans le cadre de son dispositif Recherche et Société. Ouais, alors en fait, c'est ça qu'il faut quand même expliquer. Donc ces terres qui étaient en commun, donc ça date de plusieurs siècles maintenant, ont été ensuite, en anglais on appelle ça enclosures, donc qui sont devenues des parcelles en fait cadastrées et avec un titre de propriété clair qui autorise en fait des mécanismes de marché. Et l'idée de retrouver des communs fonciers, c'est d'avoir en fait des droits de propriété qui soient moins complets au sens économique du terme pour, quelque part, suspendre ces mécanismes de marché et avoir une gouvernance par l'action collective de ces terres. Et ça peut être un moyen qui permet plusieurs choses, d'installer des agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes qui recherchent des terres, qui n'ont pas forcément accès aux terres, notamment pour des petits projets. Ça peut être une première motivation. Mais une autre motivation qu'on peut voir de l'autre côté, ça peut être aussi la communauté, les citoyens qui s'organisent pour acheter des terres, pour aussi garantir leur environnement de vie, pour s'assurer que les exploitants agricoles qui sont à proximité de leur résidence, par exemple, utilisent des méthodes culturales qui soient pas trop polluantes ou contaminantes pour eux. Donc on peut avoir en fait les deux motivations à ces projets. Enfin, c'est en tout cas ce que nous on repère dans l'étude ici qu'on est en train de mener. En fait, l'objectif général du projet, justement, c'est d'étudier ces communs fonciers en s'appuyant sur la pratique bretonne, donc des GFA et des SCI citoyennes, et donc à trois niveaux. La première partie, c'est au niveau juridique, puisque c'est un statut qui n'est pas forcément prévu pour une administration sous forme de commun. Et donc l'idée, c'est de voir comment on pourrait améliorer ces statuts. Ça, c'est un premier point. On a un dialogue qui se noue du coup avec les deux autres dimensions du projet qu'on va plus traiter ici à l'université. D'une part, c'est l'action collective, comment ces associés qui détiennent les terres arrivent à gérer le commun foncier. Et puis d'autre part, il y a une analyse plus financière des associés, enfin, au sens de ceux qui détiennent les parts sociales de ces structures, quelles sont leurs relations avec, par exemple, les exploitants, enfin, les paysans, paysannes, quelle est leur dispersion géographique, quelle est la part du capital qu'ils détiennent, etc. Et puis on peut aussi analyser ça, puisqu'on a fait un gros travail de collecte de données, on peut aussi voir ça dans le temps, comment ça bouge dans le temps, est-ce que le capital est de plus en plus concentré dans les mains de quelques associés, est-ce qu'il est de plus en plus concentré localement, ou au contraire, est-ce qu'il va tendance à être de plus en plus dispersé? Enfin voilà, c'est ce genre de notions qu'on peut regarder. Et ça peut être assez intéressant pour, à la fois, on peut relier ça après à des questions d'action collective, donc le deuxième point, et même en termes statutaires, ça pourrait même nous permettre d'ajuster le statut en fait en fonction des réalités aussi financières qu'on observe.
Donc Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plutôt un travail de terrain. Donc je suis allée à la rencontre des associés, des co-gérants, des co-gérantes qui font partie de ces GFA, des SCI. Et donc c'était intéressant aussi de voir les paysans, les paysannes aussi dans leur lieu de vie, parce que c'est ça aussi, parce que c'est facile d'aller lire des textes sur les enjeux du foncier, sur les enjeux de la transmission, mais d'écouter des personnes en parler de leur vécu, ben c'est plus concret, quoi. C'est eux les mieux placés pour parler de leur situation. Voilà.
Donc moi, c'est plutôt par mon passé. Moi, j'ai une licence contrôle de gestion en finance. Et oui, effectivement, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des personnes. C'était surtout au téléphone où il fallait récolter des données financières et autres données. Mais oui, à peu près 3000 associés enregistrés avec énormément de données. Et c'était avec des montants qui pouvaient être différents d'une structure à l'autre. Ça dépendait, comme on disait tout à l'heure en réunion, ça dépend du profil, de la structure et tout. C'est très intéressant, c'est la première fois que je travaille sur ce sujet, donc sur les GFA et SCI, et je ne suis pas déçu.
Ce que j'ai pu observer en rencontrant les GFA, les SCI, c'est que y en avait pour qui ils avaient une super dynamique, ils avaient une facilité à aller lever des fonds, donc aller chercher plus d'associés, que ça soit ajouter des associés ou demander aux associés déjà préexistants d'augmenter les parts en fait qu'ils avaient. Et en fait, c'est vraiment de l'éducation populaire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils s'auto-proclament co-gérants, co-gérantes d'un GFA SCI. Ils n'ont pas tous des compétences préalables en gestion, en administration, en comptabilité. Donc en fait, ils se forment entre eux et elles, ils assurent une rotation aussi. Donc ceux qui fonctionnent le mieux, c'est justement ceux où la co-gérance se renouvelle. Parce que ce qu'on peut observer dans toute structure associative, c'est que quand les tâches ne sont pas assez bien distribuées, on a des gens en fait qui s'épuisent, qui aussi deviennent un peu des experts. Donc les gens se reposent sur eux. Il y a aussi un laisser-aller et ça crée un épuisement et ainsi de suite. Et donc, tandis que quand une co-gérance, elle est plutôt équilibrée sur la distribution des tâches, qu'elle est conviviale aussi. On fait aussi beaucoup des liens par rapport au territoire, c'est-à-dire que quand les co-gérants, co-gérantes sont près de l'exploitation du projet paysan, quand ils sont prêts entre eux, ils se font des réunions, ils ont des moments de convivialité, et du coup, c'est agréable pour eux. Et donc tout ça, en fait, c'est des choses qui favorisent la réussite, hein, finalement, de ces GFA, de ces SCI. Et c'est aussi caractérisé à travers les projets paysans, par exemple quand ils font de la vente à la ferme, qu'ils vont faire des portes ouvertes de leur ferme. Et tout ça, en fait, ça fait en sorte, ça crée un lien aussi sur le territoire. Donc les personnes qui consomment les produits de la ferme sont des futurs associés, hein, parce qu'ils comprennent que c'est un projet collectif. Et du coup, donc ça devient vraiment un projet fédérateur autour de l'alimentation aussi.
Comme le disait Victoria tout à l'heure, c'était construire le réseau de la famille. Par rapport à cette vision-là, c'est que ce genre de personnes ont plutôt tendance à vouloir aider au départ à la constitution de la structure. Et dès qu'ils voient que le projet se porte bien et avance tout doucement, ils ont tendance à vouloir se retirer du projet. Alors que des personnes qui viennent et par rapport à un réseau soit amical ou qui ont cette idéologie de commun, ont plutôt tendance à perdurer dans le temps, c'est-à-dire investir et laisser les montants qu'ils ont investis dans le temps. Donc il y avait aussi ça que j'avais pu constater, c'est que dans la majeure partie des structures, quand une personne de la famille décidait de se retirer pour X raisons, le reste de la famille se retirait soit en même temps ou l'année qui suivait. Donc on avait des fois 5 membres d'une même famille qui pouvaient se retirer d'une structure. Donc derrière, la structure est obligée de s'organiser pour pallier à ce retrait d'associés et faire venir d'autres personnes.
Moi, j'ai eu un peu de quelques papiers qui sont arrivés sur ma boîte mail, notamment des mots incongrus comme des modèles économétriques avec des équations complètement incompréhensibles. égale CLST, plus je ne sais même pas, il y a des lettres, je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi, c'est bêta, ça ? Bêta 3 fois exploitation, enfin voilà. C'est ça votre travail ici, Simon Cornet ? Est-ce que c'est ça le but de cette recherche participative ?
Ouais, alors... Ça c'est la technique qui permet d'arriver à certains résultats. Donc en fait, c'est une forme de triangulation. On a un travail théorique tout d'abord sur les communs. Ça c'est un premier point. Après, on a tout un travail de terrain, de nature plus qualitative. Et puis enfin, comme on l'a exprimé, un travail de collecte de données extrêmement ingrat, parce que très, à la fois très long, très minutieux à faire, mais qui nous permet d'avoir une base de données très complète, et donc assez, même très représentative de ces structures. Et à partir de ces données, on peut en effet utiliser ces modèles économétriques pour tester des hypothèses qu'on peut formuler à partir du travail de terrain qui a été réalisé. Donc ces hypothèses, en fait, en général, on a deux natures hein, pour tester une hypothèse, pour simplifier un peu le travail scientifique. En gros, soit on parle de la théorie et puis on formule des hypothèses, ça c'est un premier point. Soit on va faire un travail de terrain, on va avoir des discussions avec les acteurs. Et puis à partir de là, on va pouvoir formuler des hypothèses testables. Et donc c'est ce qu'on fait là. Donc on ne peut pas tout tester, mais il y a une partie en tout cas qu'on peut tester. Et donc c'est un travail qui quand même, j'en ai la quasi-certitude, qui intéresse les gérants de ces structures. J'avais présenté donc ce diaporama là dont extrait la citation, je l'avais présenté à une réunion de gérants donc de ces structures il y a maintenant quelques mois, et eux étaient en demande justement d'avoir plus de résultats, notamment sur la période longue. Donc qu'est-ce qui se passe en dynamique justement sur les mouvements d'associés, mouvements de capital, etc. Et donc pour avoir des résultats probants, il faut utiliser les techniques qui sont aujourd'hui au point là-dessus pour fournir les meilleurs résultats qu'on puisse obtenir avec les techniques statistiques actuelles.
Dernière question, l'intérêt de la recherche participative.
C'est de sortir de l'université, hein, finalement, c'est d'aller à la rencontre de la société et aussi de rendre aussi à la société par la suite. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je fais des entretiens, comme Simon l'a dit, hein, les gens sont demandeurs, en fait. Ils veulent voir les résultats de notre recherche, ils veulent avoir ce qu'on appelle une restitution. Hein, donc, faut aussi s'assurer que ça soit compréhensible. C'est-à-dire que oui, pour des besoins de recherche scientifique, on va aller quand même avoir une rigueur dans nos méthodes, mais après, il faut qu'on soit capable de le vulgariser aussi pour pas que les gens concernés se retrouvent à pas comprendre comment on parle d'eux, en fait. Hein, c'est le concept, c'est que ça soit clair pour eux et elles. Et donc, la recherche participative, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire notamment, on a fait des focus group. Simon a animé des focus group. Moi, c'était plutôt des observations participatives, donc des entretiens collectifs. Donc, c'est de favoriser une connaissance hein, qui est produite collectivement, tout simplement. Parce que les gens, en fait, quand ils sont seuls et quand ils sont ensemble, ils réfléchissent pas de la même façon. Et en fait, ils interagissent et ça permet de trouver des nouvelles idées, quoi. C'est ça l'idée.
Ce que je peux juste rajouter, c'est que il va y avoir une production aussi scientifique associée à ça à plusieurs niveaux. D'une part, ça va être la production d'un rapport qu'on pourra donner aux différentes parties prenantes concernées, qui sera assez vulgarisé, même si ce terme ne convient pas tout à fait. Et puis, il y aura des renvois, des articles plus scientifiques qu'on va essayer de... J'ai la conviction qu'on va réussir à les publier dans les meilleures revues de notre discipline, pour aussi voilà, montrer que ces pratiques existent, les valoriser, que nous, les résultats qu'on a trouvés, on aille les défendre aussi auprès de nos collègues de nos disciplines. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu aussi là-dessus. C'est de rendre justice aussi à ces acteurs, d'aller au bout de ces publications scientifiques et d'aller au plus haut niveau avec celles-ci.
Ce reportage a été produit et réalisé par la CoreLab avec le soutien de la Région Bretagne. Pour plus d'informations sur le projet que vous venez d'entendre et pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur corelab.org.